Je revois encore notre hôte, vivrai-je 100 ans que je ne saurais oublier cette image, tel qu'il m'apparut dans le cadre de l'âtre quand je descendis dans la salle où la mère Appenzell avait préparé notre repas. Mes amis étaient assis autour du feu, les bottes aux braises. Lui se tenait devant eux, debout dans un coin, sur la pierre du foyer de cette cheminée, vaste comme une chambre. Il était en habit. Et quel habit ! D'une élégance suprême, mais extraordinairement défunte. Ainsi, pour nous recevoir, il était allé mettre son habit. Le sien, celui de son grand-père ou de son trisaïeul, me parut que Brummel ne pouvait avoir eu d'autre élégance que celle-là. Le col de l'habit haut, les revers larges, le gilet de velours, la culotte et les bas de soie, la cravate, tout cela avait un grand air d'autrefois dont je n'aurais pu dire l'âge. Notre hôte avait les manières les plus nobles, c'est-à-dire les plus simples. Il me pria de prendre place au foyer. Et nous voici partis à parler chasse. Ma coco, malgré sa gêne visible, ne résiste pas à nous conter quelques exploits. L'hôte aimablement l'approuve. Quant à moi, je ne puis détacher mes regards de ce visage pensif, surgissant tour à tour dans l'ombre et dans la flamme, si douloureux à voir dans sa singulière expression double d'énergie et de tristesse. Cette face, si étrangement tourmentée, même dans son calme actuel, semble nous raconter, ride par ride, tous les bouillonnements de la jeunesse, comme un volcan raconte aux voyageurs, de toute la profondeur de ses crevasses, les prodigieux soulèvements de son cœur éteint. À côté de son maître, regardant de ses yeux mi-clos le grésillement de la bûche, Mystère, le museau sur les pattes, est étendu. Un moment, il ouvre une large gueule et bâille, comme il a aboyé, en silence. Et je demande, « Il y a longtemps que votre chien est muet ? Quel singulier accident lui est-il donc arrivé ? Il est muet de naissance, répond l'autre après une courte hésitation, comme si ce sujet de conversation ne lui plaisait point. Mais, j'insiste, son père était muet, sa mère peut-être ? Sa mère et la mère de sa mère, fait rudement le gentilhomme. Et la mère de sa mère. Ah, vous avez été le maître de l'arrière-grand-mère de Mystère. Oui, monsieur, et c'était une bête fidèle, qui m'aimait bien. Une bête de garde surprenante, ajouta l'hôte, en marquant soudain une émotion qui m'étonna. Elle était muette aussi de naissance ? Non, monsieur, non, elle n'était point muette. Mais elle est devenue une nuit qu'elle avait trop aboyé. Allez bien, la mère Appenzell, le souper est-il prêt ? La vieille servante entrait avec une soupière fumante dont elle était fort embarrassée à cause de son bâton. Alan courut à son secours. Messieurs, si vous voulez me faire l'honneur de vous asseoir à ma table... Le souper est excellent. Nous avons tous une faim de loup. Alan et moi dévorons tout de suite tout ce qui tombe charitablement dans notre assiette. Ma coco et Mathis, qui semblaient de les premières cuillerées d'un potage fameux, redoutés d'être empoisonnés, se décident à ne plus faire la petite bouche. La mère Appenzell, pour arroser un cuisseau de chevreuil dont nous faisons nos délices, apporte deux vieilles bouteilles de Neuchâtel. Le gentilhomme veille à ce que la conversation, malgré nos appétits déchaînés, ne languisse point. Il nous demande si nous sommes contents de nos chambres. « Monsieur notre hôte, il faut que je vous fasse une prière. » C'est moi qui parle. Toutes les têtes sont tournées vers moi. Je désirerais coucher dans la mauvaise chambre. Je n'ai pas plutôt prononcé cette phrase que je vois la figure de notre hôte, si pâle déjà, blêmir encore. « Qui vous a dit qu'il y avait ici une mauvaise chambre ?» demanda-t-il, retenant à grand peine une irritation certaine. La mère Appenzell, qui apportait un magnifique morceau d'emmental sur une assiette, se prend à trembler si fort qu'on entend l'assiette tambouriner contre la table. « C'est toi, mère Appenzell ?»« Oh, ne grondez pas cette excellente femme, mon indiscrétion, seule et coupable. Je voulais entrer dans la chambre dont la porte était restée close et votre servante me l'a défendue. N'entrez pas, m'a-t-elle dit, dans la mauvaise chambre. Et vous n'y êtes pas entré. Et j'y suis entré. Ah, oh, mon Dieu ! Gémit la mère Appenzell en laissant tomber un verre qui se brisa avec un singulier fracas. Va-t'en ! Crie l'homme brutal. Et quand elle est partie. Vous êtes curieux, monsieur ? Excusez-moi, très curieux. Et puis laissez-moi vous dire, monsieur notre hôte, n'est-ce point vous-même qui, tout à l'heure, auprès de la grotte où nous avons eu la bonne fortune de vous rencontrer, avait fait allusion au bruit qui courait la montagne? Eh bien, je ne serais pas fâché que la si parfaite hospitalité que vous nous offrez serve à les dissiper. Quand j'aurai couché dans cette chambre qui a une si mauvaise réputation, et que j'y aurai reposé en paix comme un honnête homme qui a la conscience tranquille et qui a bien soupé, on ne dira plus que votre maison, comme vous nous l'avez annoncé avec la plus triste ironie, porte malheur. Mais le gentilhomme m'interrompt. Je me moque de ce qu'on dit dans la montagne. Vous ne coucherez point dans cette chambre, on n'y couche plus. On n'y a point couché depuis 50 ans. Et qui donc y a couché pour la dernière fois? Moi. Et je ne conseillerai jamais à personne d'y coucher après moi. Cela est dit sur un tel ton de colère mêlée d'effroi que mon désir et ma curiosité redoublent. Il y a 50 ans, vous étiez un enfant à cette époque, à l'âge où l'on a encore peur la nuit. Il y a 50 ans, j'avais 28 ans. 28 ans, si cet homme a 78 ans. Oh, qui l'eût cru, il est si droit, si haut, si volontaire. Oh, c'est un beau spectre de vieillard bien vivant. Mais enfin, est-il indiscret de vous demander ce qui vous est arrivé dans cette chambre? Moi, je viens de la visiter, et il ne m'est rien arrivé du tout. Elle m'a bien paru la plus naturelle des chambres. J'ai essayé de redresser une armoire. « Vous avez touché à l'armoire !» hurle l'homme en jetant sa serviette et en venant vers moi avec des yeux de feu. « Vous avez touché à l'armoire ?»« Oui, » dis-je tranquillement, elle allait tomber. « Mais elle ne tombe pas. Mais elle ne tombera jamais. Mais elle ne se redressera jamais. Mais c'est sa manière à elle d'être comme ça, pour toujours titubante, vacillante, frémissante pour l'éternité. » Nous nous étions tous levés. La voix de l'homme était rauque, de grosses gouttes de sueur coulaient de son front. Ses yeux, que nous croyions morts, jetaient des flammes. Vraiment, il était effrayant à voir. Il me saisit le poignet et l'étreignit avec une force dont je l'eusse cru incapable. Et, presque bas, cette fois-ci, il me demanda « Vous ne l'avez pas ouverte ?» « Non. Tant mieux pour vous. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Non. Eh bien, tant mieux pour vous. Ah, monsieur, vraiment, tant mieux pour vous. » Fébrile, il s'essuya le front, poussa un profond soupir, fit quelques pas désordonnés, et comme il passait près du foyer et que son chien le regardait curieusement aller et venir, toute sa colère qu'il essayait visiblement de calmer le reprit. Et toi, n'es-tu pas fatigué de me regarder en silence, de me voir vivre en silence, de m'accompagner partout en silence? Va coucher, mystère, à la niche. Est-ce pour aujourd'hui? Est-ce pour demain? Mais quand parleras-tu donc, mystère? Ou crèveras-tu comme les autres, en silence? Il avait poussé la porte qui donnait sur la tour et il talonnait furieusement son chien qui, à chaque coup, ouvrait la gueule de douleur. Nous étions fort impressionnés par cette scène inattendue. L'homme s'était enfoncé dans l'ombre de la tour, toujours poursuivant son chien. Makoko fit à mi-voix. « Qu'est-ce que je vous avais dit ? Oh, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi je ne me couche pas cette nuit. Oh. Je reste ici, dans cette pièce, jusqu'au matin. Ah, »« Moi aussi, » dit Matisse. Alan déclara. « Dame, ça vaut peut-être la peine de veiller. On va peut-être voir des choses amusantes. »« Taisez-vous ! » interrompit rudement Makoko. « Ne blasphémez pas !» Et il ajouta, « Mais qu'est-ce que je vous avais dit ? Qu'est-ce que je vous avais dit ?» Alan, agacé, « Mais qu'est-ce que tu nous as donc dit ?» Makoko, penché sur nous, les yeux hors des orbites, « Vous ne voyez donc pas que c'est un possédé ?»«
C'est un malade, » dit Alan. « Oui, approuvais-je un monomane. » Le reste du temps normal, il est repris de sa frénésie quand il est subitement en face de sa manie. C'est un malheureux qui a certainement la manie de la persécution de l'au-delà. Son cerveau est la proie du diable.
« Ne prononce pas ce nom-là, surtout ici !» fit hâtivement Makoko.
Alain et moi, nous nous mîmes à rire. « Vous n'auriez pas !» supplia Matisse.
« Ah, zut !» s'exclama Alan. « Vous n'allez pas, avec vos têtes de mort, nous empêcher de vous amuser.
Il n'est pas 11 heures. Tâchez d'avoir le sourire. Nous avons 6 heures devant nous. Si nous faisions un petit poker, on va inviter notre hôte. Ça lui changera les idées. » Et Alan, joueur forcené, tira un jeu de cartes de sa poche, le jeu avec lequel nous avions fait tous deux pendant le voyage de Paris à la Chaux-de-Fonds, d'interminables parties d'écartés. Déjà Alan, sur un coin de la table, avait déposé un jeu de 52 et triait du paquet les cartes dont il estimait n'avoir pas besoin.
« Je garde les 6, hein, si nous jouons à 5. »
Il n'avait pas terminé son opération que le gentilhomme rentrait dans la salle.
Notre hôte nous parut relativement calme, et l'on voyait qu'il avait occupé ces quelques minutes à reprendre ses esprits, mais par un phénomène dont nous ne pouvions comprendre la raison, dès qu'il aperçut le jeu de cartes sur la table, sa figure se transforma immédiatement et prit une telle expression d'épouvante et de fureur que j'en fus moi-même effrayé.
« Des cartes ! » s'écria-t-il. « Vous aviez des cartes ?»
Alan se levait aimable. Nous avons décidé de ne point nous coucher, notre cher hôte. Nous sommes, nous autres, d'affreux noctambules qui n'avons point coutume de retrouver notre lit avant l'aurore. Alors, en attendant, nous jouons.
Oui, une petite partie d'amis. Le poker. Vous ne connaissez pas le...
Mais Alan s'arrête. Il vient d'être frappé, lui aussi, de l'aspect formidable de notre hôte. Nous ne le reconnaissons plus, tant instantanément il a vieilli. On lui donnerait 100 ans, ou plutôt, il a l'âge de ceux dont on ne compte plus les années. Ses yeux sont injectés de sang, les poils de sa maigre moustache sont hérissés, ses dents sont menaçantes, sa bouche crispée, siffle.
« Des cartes ! Des cartes !»
Ces mots sortent avec peine de sa gorge, comme si une main invisible l'eût étranglé.
« Qui vous a dit de venir ici avec des cartes ? Qui vous envoie avec des cartes ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Que me voulez-vous encore ? Il faut brûler les cartes ! Il faut brûler les cartes !»
Sa main, d'un mouvement brusque, saisit le jeu sur la table, et il va le jeter dans le brasier quand son geste s'arrête à mi-chemin. Ses doigts tremblants abandonnent les cartes, il se laisse tomber sur le fauteuil, pousse un cri rauque.
« J'étouffe ! J'étouffe !»
Nous nous précipitons pour lui porter secours. Mais d'un seul effort de ses doigts maigres, il a déjà arraché son col, sa cravate, et maintenant immobile, la tête haute, appuyée au dossier du vaste meuble,
Il pleure. Ses orbites, profondes comme des cratères, laissent couler des larmes brûlantes. Et enfin, il parle d'une voix plaintive.
Vous êtes de bons enfants. Il faut que vous sachiez.
Vous ne vous en irez pas d'ici comme ça, en me prenant pour un fou, pour un pauvre malheureux, triste fou.
Makoko et Matisse écoutent le vieil homme en perdre la respiration. Alan et moi, l'examinons comme des bons élèves de la faculté de Paris, doivent considérer un cas curieux.
Oui, fait-il, oui, vous saurez tout. Cela pourra vous servir.
Et le cas curieux se lève, marche, s'arrête en face de nous, nous fixe de son regard éteint à nouveau, de son regard qui est retourné après la brusque sortie de tout à l'heure, se réfugier au fond de ces deux trous, asile de cette âme tourmentée.